Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Le réveil culturel qu'on peut écouter tous les jours de la semaine tôt à la radio ou quand on veut en passant par le podcast ou l'écoute en ligne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mon invité est Faïz Hagen qui publie son 6e roman chez Plon et qui a pour titre La discrétion.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Faïz Hagen.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver autour de votre dernier roman La discrétion. Paru chez Plon, c'est le portrait magnifique d'une femme, Yamina, née en pleine guerre en Algérie, et qui aura 3 enfants en France, ou plus exactement à Aubervilliers, où elle a été obligée de venir rejoindre son époux, un travailleur émigré et maçon. Alors, c'est l'été de ses 70 ans, et donc Yamina est entourée de ses enfants aimants, et c'est aussi le roman qui raconte sa vie. C'est vraiment bouleversant parce que vous avez une tendresse immense pour cette famille et particulièrement pour Yamina, cette femme discrète et conciliante.
Oui, beaucoup de tendresse pour ce personnage parce qu'avant tout, c'est un hommage. Donc, il y avait cette dimension de vouloir remettre des couleurs dans ces personnages de femmes qu'on voit de manière tellement effacée. Et puis, la question que j'avais envie de me poser aussi, c'était... Quelle jeune fille, quelle petite fille, quelle femme elle a été avant d'être une mère. Au-delà d'être une mère, elle a eu des rêves, elle a eu des ambitions, elle a eu voilà, une histoire. Et l'air de rien, elle a une histoire incroyable, quoi. Et voilà, j'avais envie de rendre
hommage. Invisible a eu une histoire.
Absolument. Et une histoire pas des moindres, quoi. C'est-à-dire une histoire vraiment intense, complexe, voilà, liée à la guerre, à l'exil, à tous ces... toutes ces questions, mais aussi toutes les questions relatives à sa féminité, à ses choix de vie, aux rêves qu'elle a eus autrefois, qu'elle n'a pas pu forcément réaliser, comme le fait d'aller à l'école, de continuer ses études, etc. Donc il y avait l'envie de dérouler un fil de la vie de cette femme et de la sublimer aussi.
Au sein d'une famille, parce que la famille est très présente.
Absolument.
Le père, les enfants.
Ouais, c'est... Aussi parce que c'est un contexte qui est très particulier, c'est-à-dire que quand je commence l'histoire, on est en 1949 et c'est la naissance de Yamina dans un village à l'ouest de l'Algérie, donc à l'aube de la guerre d'Algérie, et on fait des allers-retours entre sa vie présente et cette histoire passée. Et donc c'était une manière pour moi aussi de montrer ce que c'est d'être une femme qui est née en tant que sujet colonisé et qui devient la mère de citoyens français. C'est quand même, entre les deux, on a envie de comprendre ce qui s'est passé dans cette existence. Et on a envie de comprendre quels sont les impacts et les conséquences de cela sur ses enfants, qui eux sont français, qui sont nés en France et qu'elle a élevé, elle, sur le territoire français.
Et ses enfants ne supportent pas qu'on s'adresse à Yamina, leur mère, comme si elle était absolument idiote, naturellement inférieure. Il y a une scène, c'est Yamina, votre personnage central dans une consultation médicale, qui dit tout. Et c'est d'une rare violence. Et comme toujours avec vous, Faïz Hagen, vous faites passer ça avec une tendresse inouïe.
En consultation, le médecin se contente du minimum. Il ne va pas beaucoup plus loin que les examens routiniers. Ce qui est remarquable, c'est qu'il tutoie Yamina. Non parce qu'il y a une quelconque intimité entre eux, ni même parce que c'est un homme particulièrement chaleureux. Il la tutoie après avoir dit « Madame Yamina ». Par exemple, il demande « Alors, Madame Yamina, tu as bien pris tes petits cachets ?» Ou « Madame Yamina, ça ne va pas le diabète en ce moment, tu as mis trop de sucre dans ton thé à la menthe ?» Et c'est absurde, mais Yamina l'aime bien. C'est probablement l'habitude. 15 ans déjà qu'elle vient ici. Elle lui est fidèle. Elle n'a jamais songé à le quitter. D'ailleurs, elle s'enquiert toujours de la santé de son médecin, c'est assez cocasse. Elle est probablement la seule de ses patientes à lui demander comment il va et à prendre des nouvelles de sa famille. Elle le fait avec une sincérité déconcertante. Elle ne perçoit aucune condescendance dans le ton qu'il emploie avec elle. Même lorsque, sous prétexte d'humour, il lui demande de dégager ses oreilles de son foulard pour y regarder à l'intérieur avec son otoscope et qu'il ajoute « Allez, on enlève sa petite burqa pour montrer ses petites oreilles ». Yamina ne voit pas le mal, ça la fait même plutôt sourire. Yamina ne voit pas non plus ce que les gestes indélicats du médecin traduisent. Elle ne se rend pas compte qu'il est brusque et expéditif. Parfois même, il la heurte en lui soulevant le bras pour prendre sa tension. Mais jamais elle n'oserait le lui faire remarquer. Comme si avoir mal était acceptable. Comme si rien n'était grave la concernant. D'une certaine façon, Yamina est préservée.
Yamina, c'est le nom du personnage central du dernier roman de Feyzaghen, La Discrétion. Yamina, et vous posez la question d'ailleurs parce que cet extrait est très frappant. Je veux dire qu'on voit bien tout le malaise et on comprendra mieux, une fois, parce que ça c'est le début du roman, la colère des enfants ou d'une des enfants de cette famille qui ne supporte pas que sa mère soit traitée comme ça.
Ça c'est le personnage de Anna qui est une des filles de Yamina qui, elle, je pense, est la plus incandescente, ça la met hors d'elle. Parce que, en même temps, il y a des raisons, c'est voir sa mère dont on sait le parcours qu'elle a eu et dont on sait ce qu'elle a traversé, la voir être infantilisée et méprisée, c'est très difficile. Et puis c'est aussi une accumulation, c'est-à-dire que ce sont des scènes, en vrai, d'une banalité incroyable. Parce que je suppose que c'est pas seulement le cas pour Yamina et que c'est le cas pour beaucoup de gens. Donc quand on est l'enfant et qu'on voit du coup cette scène de l'extérieur, c'est dur à vivre, c'est difficile. Et c'est dur à raconter. Parce que ça a l'air d'être un détail, d'être une plaisanterie anodine, une petite remarque l'air de rien comme ça. Et en fait, à force, toutes ces micro-agressions, elles provoquent une colère sourde qui est très dure à gérer, en fait, pour ses enfants.
Mais la narratrice de ce roman, elle se pose d'autres questions. Elle n'est pas comme Anna. Elle se dit, et si aujourd'hui, pour cette femme de 70 ans, pour Yamina, refuser de se laisser envahir par le ressentiment était une façon de résister?
Oui, c'est simplement changer un petit peu de point de vue. C'est-à-dire que d'abord, pour cette femme, moi en tant que romancière, j'ai envie d'avoir de l'indulgence, c'est-à-dire, et aussi de comprendre, au-delà de cette image de femme discrète qui s'écrase, j'ai pas envie de voir seulement de la faiblesse. Je refuse de croire que c'est de la faiblesse, c'est autre chose, et c'est ça que je veux creuser. Alors, c'est une famille, comme beaucoup de familles dans ce cas, qui n'a pas un capital financier, un capital culturel de départ, donc un père qui était mineur, puis maçon, et une mère au foyer qui a traversé la guerre, l'exil, etc., qui ont vécu dans des conditions de pauvreté. Qu'est-ce qui reste comme capital dans cette famille? C'est le capital dignité. Et moi, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant dans ce livre. La dignité, comme l'amour, c'est des choses qui se transmettent aussi. Et peut-être que ça devient encore plus important quand il n'y a pas le reste.
Il n'y a pas seulement que la dignité et l'amour qui se transmettent, il y a aussi la colère. Et vous dites que la colère même enfuie ne disparaît pas et que peut-être cette colère enfuie de Yamina, elle la transmet l'air de rien aux enfants.
La colère, elle se transmet aussi, mais pas de la même façon évidemment, mais elle se transmet par le silence, par le fait de taire ces choses, par le fait de ne pas évoquer les humiliations, par le fait de ne pas avoir envie d'écraser ses enfants, de les charger avec le passé, avec les difficultés. Quand je dis dignité, c'est ça. C'est-à-dire pour moi, c'est la dignité qui fait qu'on ne veut pas avoir l'air faible ou avoir l'air de se plaindre. Et donc on ne dit pas ces choses, on n'en parle pas. Mais ces silences et ces humiliations qui sont tues, ça se transmet quand même. C'est-à-dire que la colère, elle, au contraire, elle grandit.
Il y a beaucoup de taiseux dans ce roman et dans cette famille, il faut le dire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le père ne parle pas beaucoup, même s'il s'avère être un romantique, un drôle de romantique, hein, ouais. Parce que il faut rappeler que Yamina était obligée de l'épouser, hein, c'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage, on va dire de raison, mais surtout un mariage forcé. Il ne parle pas beaucoup. Le fils ne parle pas beaucoup non plus. Et puis surtout, il y a un autre personnage très effacé qui ressemble beaucoup à Yamina, c'est la sœur aînée. Et on a l'impression qu'elle s'est sacrifiée pour sa mère, elle.
C'est la première génération, fille aînée, Malika. Et c'est pareil, que ce soit le mariage des parents ou après les choix qui ont été faits pour ces premières générations de filles en particulier, j'ai aussi envie d'être indulgente, c'est-à-dire de comprendre cette histoire. C'est-à-dire que pour moi, le mariage de Yamina et de Brahim, les parents, d'abord, ce n'est pas un mariage forcé, c'est un mariage arrangé. Et pour moi, c'est le même arrangement dans la campagne en Algérie qui pourrait avoir lieu aussi dans les milieux plus bourgeois à Paris. C'est-à-dire que ce sont des mariages arrangés des familles qui se connaissent, qui se recommandent, etc. C'est pas forcément le mariage barbare où on force la fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. C'est pas ça la question. Ce que je dis, c'est que ces filles ont souffert de pas avoir eu de précédent. C'est-à-dire que les parents, ils essaient d'inventer des règles au fur et à mesure que leur vie se poursuit ici. Dans le roman, il est beaucoup question de ce retour qui n'a finalement jamais lieu, de ces parents qui espéraient rentrer un jour. Et donc, cette vie temporaire-là, ils essaient de l'organiser comme ils peuvent, en mettant des règles, en essayant de trouver un essor de truc hybride entre leurs souvenirs de ce qui se passait au village et puis ce qui se passe ici, en France, avec les autres familles autour. Et donc, ces filles, elles ont été quelque part sacrifiées parce qu'on ne savait pas comment ça se passait. C'est pas juste des parents bornés qui forçaient les filles à se marier avec des gens qu'elles n'aimaient pas. C'est qu'il fallait inventer une organisation, un système, et que ça n'a pas fonctionné.
Réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Et avec Faïza Ghen ce matin, Khaled Chantey Yamina. Yamina comme le personnage central de votre dernier roman édité chez Plon, La Discrétion, La Discrète Yamina. Il y a une très très belle scène à la fin de ce roman, c'est les vacances. Toute la famille va en vacances enfin et ça va être la première fois pour Yamina. Ces vacances, ça va être aussi la première fois de découvrir la France en dehors d'Aubervilliers, à l'âge de 70 ans. Il y a beaucoup de tendresse, mais on a vraiment le cœur serré quand on lit ce roman Faïza Ghen.
Je pense que je suis pas dans le fantasme ou dans l'idéalisation. Je crois que ce récit et cette famille, finalement, sont proches de tas de familles et de tas de choses que j'ai pu observer, de ma propre famille et d'autres familles. Et que finalement, c'est bien de se pencher un peu sur les rêves et sur les aspirations et sur les sentiments entre les parents et les enfants et de regarder les choses avec un peu plus d'indulgence, un peu plus de tendresse. Ça nous permet d'avoir un tableau quand même plus complexe que ce qu'on a l'habitude d'avoir.
Et beaucoup de recul. C'est la première fois que vous prenez beaucoup de recul, Faïza Ghen, pour le meilleur et rien que pour le meilleur. Parce que là, on retrouve la Faïza Ghen des débuts, celle qui est drôle et qui sait être drôle, même quand elle aborde des sujets très très graves. Parce qu'à un certain moment, vous dites que, aussi bizarre que ça puisse paraître aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, mais il y a eu un temps où c'était plutôt cool, pour ne pas dire hype, d'être arabe en France.
Absolument.
Oui, que ça a duré très peu de temps.
Ouais, je dis que c'est une mode qui a duré 3-4 ans et qu'il fallait vraiment profiter parce que...
De 98 jusqu'en 2001. Ouais. Oui, c'est voilà. Ça. Vous ne faites pas que rappeler ça parce que vous dites aussi qu'il s'est passé quand même quelque chose. Hein. On parle souvent d'ascenseur social en panne dans les quartiers défavorisés de France. En réalité, l'ascenseur fonctionne peut-être moins bien et moins rapidement que les autres ascenseurs des quartiers plus huppés, mais il fonctionne parce que la vie de ces jeunes qu'on rencontre à travers la famille de votre livre Faïza Ghen, ils ont changé, c'est-à-dire ils veulent réussir dans la vie, ils ne vont plus d'ailleurs au bled pendant les vacances, ils préfèrent la Thaïlande, et ça, vous racontez ça, c'est aussi l'inventaire de comment cette société ou ces quartiers populaires dans cette société française évoluent.
Alors, vous parliez de recul tout à l'heure, Tofik, sur le fait d'avoir pris du recul. Même, je veux dire, dans la manière d'écrire, c'est la première fois, c'est le premier roman que j'écris à la troisième personne. Donc, je pense que c'est un signe fort de ça. Mais en même temps, j'ai envie justement, s'il y a un message pour ce livre, d'abord, c'est que ce récit compte. Que le récit de cette femme, qui a l'air invisible, il existe et qu'il faut le raconter, que c'est important, que c'est nécessaire. Et l'autre chose, c'est aussi que c'est un portrait d'une famille française, finalement. Et que j'invite, en fait, les lecteurs à avoir la curiosité de comprendre, pour ceux qui ne sont pas familier de ce genre d'histoire, de cette culture, de cette histoire, etc. Mais ce que j'ai envie de dire en vrai, c'est qu'il y a des conditions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des mouvements, qui sont ordonnés. Que ce soit pour des familles bourgeoises blanches ou pour des familles d'Algériens qui vivent à Aubervilliers, il y a des choses qui se poursuivent, il y a une continuité, il y a un héritage. Et chaque génération reçoit un héritage. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on s'en tire, en fait ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide ?
C'est parce que vous êtes mère aujourd'hui, Faïza Ghel, que vous posez ce genre de questions ?
En fait, pour être honnête, je me la posais même avant d'être mère, cette question de l'héritage, parce que moi, j'ai eu des parents et un père qui m'a eu tard. Et quand on a des parents âgés, je crois qu'on se pose les questions plus tôt. Parce que je pense que j'ai toujours senti que quelque chose pouvait m'échapper. J'ai eu envie d'écrire tôt et j'ai eu envie de comprendre l'histoire de mes parents assez tôt. J'ai fait avant de d'écrire des romans, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des films documentaires quand j'étais très jeune. À 17 ans, j'ai fait un docu sur le 17 octobre 61. Et c'est grâce à ce documentaire que j'ai fait parler mon père pour la première fois de cet épisode de l'histoire française qui était pour moi très marquant en fait. Et j'ai compris que oui, chaque génération a sa mission à remplir. Et la nôtre peut-être, c'est de recueillir ces récits et de les raconter.
Alors aujourd'hui, on parle d'écrire une histoire franco-algérienne. Le président Macron a même désigné Benjamin Stora pour commencer ce chantier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Faïza Ghel ?
Je pense qu'il serait temps de reconstruire et déjà de parler, de raconter, parce qu'il nous manque. Moi, je parle de mémoire en fragments. Pour les gens de ma génération, d'ailleurs, une génération même avant la mienne, c'est-à-dire la première génération née en France, parce que moi j'ai un écart de génération avec mes parents, que je suis très préoccupée par ces questions aussi, mais il serait temps quand même qu'on se dise que nos histoires, elles méritent d'être racontées, et qu'on en a besoin pour que les choses soient plus simples, qu'on a besoin de savoir de ce qui s'est passé, à défaut d'avoir dans l'histoire, dans la mémoire collective et dans les livres d'histoire à l'école des choses qui nous concernent, on peut au moins faire parler nos parents, et faire parler les témoins de cette histoire, et écouter leurs récits et les inscrire quelque part.
Et d'être témoin à votre tour, Faïza Ghel.
Ouais.
Il y a des moments très forts dans votre roman La Discrétion. Ce sont des questions que très peu de gens se posent. Par exemple, quand il y a un attentat en France, quand cet attentat est probablement commis par des islamistes, on ne devine pas comment ces familles d'origine arabe réagissent aux informations, à comment cette actualité est commentée. Et vous le racontez très bien. Dans cette famille, dès qu'il y a un attentat, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est de se dire, mon Dieu, pourvu qu'il ne s'agit pas d'un des nôtres. Et puis après, vous dites, de toute manière, quand il y a un deuil national qui devrait regrouper tous les citoyens de ce pays, il y a quand même une partie qui est exclue du deuil national.
Absolument. Ce que je dis, c'est que...
C'est très fort, ce passage.
Je dis qu'un peuple uni ne se divise pas pour pleurer ses morts. C'est même à ça qu'on le reconnaît. C'est ça la phrase exacte. C'est-à-dire que, et pour moi, c'est très important de le dire. C'est-à-dire, avant même de se dire, mais j'espère que c'est pas un des nôtres, d'abord, on est comme tout le monde. On ressent de l'effroi, de la tristesse. Et bien sûr que notre élan naturel, c'est d'être justement en cohésion avec tout le monde, avec tous les autres. Et puis, on est malheureusement contraint de se décaler un peu du cortège. C'est-à-dire, on doit je parle de ça, mais ça c'est, je ne suis pas la première à l'avoir évoqué. Le fait de se désolidariser, c'est terrible parce que du coup, on est affilié à des gens avec qui on n'a absolument rien en commun. C'est terrible. Moi, je le vis comme une injustice à chaque fois. Et j'aimerais... En lisant ce livre, peut-être certains lecteurs vont comprendre dans quel mouvement on est mis à notre insu. C'est-à-dire que on ne choisit pas de se désolidariser de gens qui ne nous ressemblent pas et qui n'ont rien en commun. C'est pas possible.
C'est peut-être votre livre le plus politique, Faïza Ghel, ou du moins le plus inquiet sur la politique en France, La Discrétion.
Je dirais pas que c'est mon livre le plus inquiet, mais je dirais que certainement que c'est le plus politique, mais dans l'intime. Moi, ça m'intéresse pas à la politique pour la politique et faire des débats creux et tout. Et ça résonne pas en moi de la même manière que raconter ce qui est politique dans l'intime. Je trouve que c'est ça qui compte et qui est vraiment, en tout cas, pour moi, qui fait écho.
Vous avez pris 2 ans pour écrire ce roman. C'était quoi l'idée de départ? Bien sûr, parler de ces gens qui disparaissent, des Chibani, de leurs épouses, ce que vous avez dit au début. Mais est-ce qu'il y avait un autre événement qui est à l'origine de cette envie de raconter l'histoire de Yamina ?
Oui, c'est une question. La question, c'est comment ces mères elles ont fait pour nous élever sans justement nous donner cette colère, sans être en colère. Et quel exploit! Et j'avais envie justement de comprendre cette démarche. L'idée, c'est voilà, de se mettre en paix, en fait. C'est que notre génération se mette en paix avec ça et qu'on se débarrasse de cette colère pour construire quelque chose de meilleur. Donc, il n'est pas inquiet, en vérité. Il est plein d'espoir, ce roman. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont fait quand même... Donc, nos parents, c'est un miracle qu'on soit pas... voyez, qu'on arrive quand même à se construire et avoir envie d'appartenir alors qu'on a tout ce bagage à porter. Et l'idée, c'est de se délester.
Voilà, il y a des passages très drôles, hein. Vous restez quand même...
Oui, ça a l'air hyper sérieux, là, depuis tout à l'heure.
Depuis tout à l'heure. Mais c'est très drôle, il y a des passages très drôles. Mais c'est un mélange des deux, hein. C'est-à-dire la gravité de l'époque.
Mais vous savez, c'est la vie. C'est-à-dire que, souvent, quand on parle des gens d'origine, hein, pour être plus général, on n'arrive pas à nous accorder quelque chose qui est normalement universel, c'est la complexité. C'est-à-dire que nous sommes complexes. Nous avons des colères, nous avons des joies, nous sommes... Et en fait, on est comme tout le monde, on est complexe aussi. Je pense que c'est une vraie richesse de... Parce qu'on se sent fier de qui on est, heureux de qui on est. Et on n'a pas honte, et cette génération-là, elle ne va pas baisser la tête.
La discrétion de Face Again paraît chez Plon, et c'était, comme d'habitude, un plaisir de vous avoir
partagé ce matin. Partagé, Toufik, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Face Again.